mais qui a commencé son règne à l'âge de 8 ans. D'où le petit garçon, hein, 8 ans. Ah oui, pardon, oublié. Avant, il y avait toujours un technicien qui aidait les prédicateurs. C'est fini maintenant. Hein. C'est la mondialisation. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un jeune roi nommé Josias, que nous connaissons tous. Alors, pourquoi j'ai eu à cœur de vous parler de Josias? Pour deux raisons majeures. La première, c'est parce que, je ne fais pas de politique, hein, nous sommes dans la réforme de la SNCF. Donc, le mot forme, ça a interpellé. Et aussi, je ne sais pas si c'est une information ou si c'est de l'intox, comme on dit, mais paraît-il, le pape François Ier voudrait supprimer une partie de l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. En tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu a dit que malheur à celui qui retranche une partie de la Bible. Bon, maintenant, je ferme la parenthèse. Donc, j'aimerais vous parler du roi Josias. Non, se trouve dans le livre des rois, deux rois, chapitres 22 à 23. Donc, naturellement, nous n'allons pas lire tous les deux chapitres, mais je vais simplement sélectionner de temps en temps les passages qui nous intéressent. Donc, à la maison, vous allez lire, donc c'est tous les chapitres, c'est tout le chapitre 22 et tout le chapitre 23. C'est long, mais c'est une belle histoire. Et surtout une histoire très riche. D'où le thème de ma prédication ce matin, que j'ai interpellé Josias, le roi réformateur. Non pas le roi de la réforme, parce qu'il n'a pas été le seul, mais il a été un grand roi qui a apporté des réformes de son temps en Israël. Donc, deux rois, chapitre 22, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, puis d'Adaja de Botska. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Qui est Josias? Alors, un petit peu d'histoire. Nous apprend que Josias était le petit-fils du roi Manassé. Et Manassé a été un des pires rois de Juda. Peut-être pour ne pas dire le pire, mais un des pires du Juda. Même si ce roi s'est repenti à la fin de sa vie. Hein, je vous ai dit dans 2 Chroniques 33, versets 12 et 13. Et même si Dieu l'a aussi rétabli dans son règne, mais il a été un des pires rois. Deuxièmement, il était l'arrière-petit-fils du grand roi Ézéchias, qui lui a été un des meilleurs rois d'Israël. Royaume du Juda. Et Ézéchias, de son temps, fut l'instrument d'un grand réveil en Israël. Et certainement, ce petit Josias, de l'âge de 8 ans, certainement, il était au courant, on ne sait pas comment, vous allez voir que c'est incroyable, mais on ne sait pas comment il a pu être au courant de ce que son arrière-grand-père est dans le passé. Josias est le fils du roi Amon, qui fut un mauvais roi pendant 2 ans. Il s'éloigna de l'Éternel par ses idolâtries et il fut assassiné par ses serviteurs. Donc Josias, il accède au trône dès l'âge de 8 ans, étant orphelin de père. Un père assassiné, comme un malfaiteur. Donc, vous voyez tout le traumatisme. Et au moment où Josias accède à la royauté, le pays est dans une grande immoralité et une décadence spirituelle incroyable. Vous savez, lorsque chaque président accède au pouvoir, il fait un bilan économique de la situation. C'est dommage que chaque président ne fasse pas un bilan spirituel. Mais Josias, lorsqu'il accède à la royauté, il a comme bilan, ami, 55 ans d'idolâtrie. Pendant 55 ans, le pays a été dans l'idolâtrie, le pays a été dans l'infidélité, le pays s'est éloigné de l'Éternel. Voilà le bilan. Il a 8 ans. Même si Manassé a eu ses repentis, et qu'on peut imaginer un petit sursaut spirituel dans le pays, mais son fils a tout mis en l'air. Ce qui fait que Josias hérite d'une situation très difficile, spirituellement parlant. Et lorsqu'il accède au pouvoir, il a deux choix. Soit il suit l'exemple de son père, avec la possibilité de règne très court, ou il suit l'exemple de son arrière-grand-père Ézéchias, avec l'assurance de la bénédiction de Dieu. Mais que nous dit le texte? Le texte nous dit qu'il choisit, il marcha dans toute la voie de Dieu, son père. Non pas Ézéchias, mais il remonte au grand roi David. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pense, et c'est vrai, David était celui qui a apporté la victoire sur tous les ennemis, qui est considéré comme ce grand roi guerrier. Mais je pense que ce n'est pas l'image principale que David a laissée comme empreinte dans l'esprit d'Israël. Il me semble que David a plutôt laissé l'image d'un roi qui aimait l'Éternel. Un roi qui marchait dans la crainte de l'Éternel. D'un roi, d'un homme qui aimait faire la volonté de Yahvé révélée dans sa parole. Et ce petit Josias, on ne sait pas comment, mais il a choisi de suivre l'image, de suivre l'exemple, de suivre les voies de David, son père. La propice père par ancêtre. Donc, que savons-nous, hein? Nous savons qu'il est jeune, au moment où il accède à la royauté, et qui n'a pas encore une connaissance profonde de Dieu. Donc, cela nous dit, on peut lire en 2 Chroniques 34, verset 3, le passage parallèle, hein, 2 Chroniques 33, non, 34, verset 3, et voilà ce qu'il nous a dit. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Donc, tout de suite, il commence à rechercher le Dieu de David, son père. Et chose extraordinaire, bon, maintenant, on va quand même revenir dans deux chroniques, hein, dans deux rois. Lire, à partir du verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Donc, lorsqu'il accède au trône, il demande à ce qu'on commence à réparer le temple de l'Éternel. Et les ouvriers, en réparant le temple, découvrent le livre de la loi. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi, verset 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur, nanana, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, etc. Donc, chose extraordinaire, en réparant le temple, on découvre le livre de la loi. Alors, imaginez, pendant 55 ans, la loi n'a pas été enseignée. D'où cette grande immoralité, d'où cette grande décadence spirituelle dans le pays. Pendant 55 ans, la loi n'a pas été enseignée. Non seulement dans notre pays, malheureusement, la loi n'est pas enseignée comme il se devrait, mais en plus on veut l'enlever, paraît-il. Je continue. Alors, nous savons que Josias, il fera des réformes. Mais quel a été le point fondamental? Quel a été le point de départ de l'attitude de Josias? C'est la découverte de la loi. C'est parce que la loi a été retrouvée, me semble-t-il, que cela a eu un impact profond dans le cœur de Josias, qui amena par la suite des réformes, ce qu'on va voir tout à l'heure. Pourquoi les réformes sont-elles venues par la loi, par la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle le péché. C'est la parole de Dieu qui montre ce que nous sommes, montre ce que Dieu attend de nous. La première réforme de Josias, permettez-moi, on va lire le texte. Maintenant, on vient au verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu dire l'Éternel. Chapitre 23, on arrive. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il prêta alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que la première réforme que le roi a faite, c'est qu'il a réformé son cœur. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu n'a cessé de dire à son peuple, réformez vos voies, circoncisez votre cœur. Et la toute première réforme que Josias a faite, c'est qu'il a réformé son cœur. Il a choisi dans son cœur de suivre l'Éternel. Il entra dans l'Alliance. Il n'a attendu que les autres le fassent. Il est d'abord entré dans l'Alliance. Il a fait le choix d'entrer dans l'Alliance. Et lorsqu'on lui a lu le livre de la loi, il déchira ses vêtements. Vous savez, ce n'est pas le fait de déchirer les vêtements qui est quelque chose. C'est que son cœur a été touché. C'est parce qu'il s'est humilié dans son cœur. Et Dieu voit le cœur. Dieu voit plus que le vêtement déchiré. Parce que je peux déchirer mes vêtements avec le cœur sec. Mais Dieu a vu le cœur de Josias. Dieu a vu que son cœur a été touché par la lecture de la parole de Dieu. Dieu a vu que son cœur s'est humilié devant lui. Il traite alliance devant l'Éternel. Et il désire rentrer dans l'alliance de l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, entrer dans l'alliance de l'Éternel? C'est reconnaître que Yahvé est le seul vrai Dieu. Que Yahvé est le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que Yahvé est le Dieu qui a choisi de faire une alliance entre lui et la postérité d'Abraham. Entrer dans l'alliance, c'est reconnaître que Yahvé est fidèle et juste en accomplissant toutes les paroles de l'Alliance, bénédiction comme les malédictions. Entrer dans l'Alliance, c'est reconnaître que Yahvé est le grand Dieu miséricordieux et compatissant, en colère, riche en bonté, même envers Manassé, qui ne méritait pas. Mais Dieu lui a fait grâce quand même. Donc, lorsque j'entre dans l'Alliance, c'est que je reconnais qui est Yahvé. Mais pour que je reconnaisse Yahvé, il faut que cette parole me touche. Si cette parole ne me touche pas, je ne peux pas reconnaître qui est Yahvé et je ne peux pas entrer dans l'Alliance de Yahvé. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, a touché le cœur de Josias, ce petit garçon-là. Dieu a touché son cœur, parce que son cœur était prêt à suivre l'Éternel. Mais est-ce que mon cœur, moi, aujourd'hui, est prêt à suivre l'Éternel? Est-ce que Dieu a touché mon cœur pour que je puisse entrer dans l'Alliance de l'Éternel? Et quel est l'engagement de Josias? Il s'engage spirituellement à suivre l'Éternel, à lui obéir. Lorsque je dis, entre nous, mais lorsque je dis que je choisis de suivre, qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que maintenant il faut actualiser la Bible. Il faut que la Bible soit au goût du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai choisi de suivre l'Éternel? Suivre l'Éternel, mes amis, ça veut dire simplement lui obéir. Lorsque j'ai choisi dans mon cœur de suivre l'Éternel, c'est que j'ai choisi de faire ce qui lui plaît, d'agir comme il le ferait, de devenir un vrai disciple de l'Éternel. Il choisit de suivre l'Éternel et d'observer ses commandements, ses préceptes, ses lois. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Observer les ordonnances de Dieu, ses préceptes, ses lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, il me semble que lorsque je dis que j'observe les ordonnances de l'Éternel, que j'observe ses préceptes et ses lois, je veux vous dire que je veux faire entièrement la volonté de Dieu. Cette volonté est révélée dans la parole. Et en plus, il s'engage à mettre en pratique cette... Ça veut dire quoi aujourd'hui? Que je veux mettre en pratique la loi de Dieu. Si je vous dis, aujourd'hui, je décide de mettre en pratique la loi de Dieu, qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je vous dis? Jean, qu'est-ce que tu comprends? Tu dis qu'aujourd'hui, je décide de mettre en pratique la loi de Dieu. Mais c'est important, mes amis. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends de ce que moi je te dis? Nous sommes entre nous. Hein? Je te dis, Jean, aujourd'hui, je choisis de mettre en pratique la loi de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends dans ce que je te dis? Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Qu'est-ce que tu comprends, ma soeur? Hein? Aujourd'hui, je dis, mes amis, je décide de mettre en pratique la loi de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Faire sa volonté. Obéir à sa parole. Ouais. Renoncer à moi-même. Vous voyez, donc, voyez, ce petit Josias, c'est ce qu'il a décidé. On n'avait pas 8 ans, il avait 10 ans de plus. Non, 8 ans, on vient, c'est à l'âge de 16 ans. Donc, 8 ans de règne. Après 8 ans de règne, quand qu'importe, il était petit. Hein? Il décide, à l'âge de 16 ans, il décide ouvertement devant tout le monde de mettre en pratique la loi de Dieu. De faire la volonté de Dieu, d'obéir. Mais gloire à Dieu pour ce petit garçon qui a fait ça. Amen. Après, il commence une œuvre de purification du temple. Là, on s'est marqué à partir du verset 4, chapitre 1. Le roi ordonna, ouais, il ordonna plein de choses. On ne va pas tout lire. Il ordonna de débarrasser du temple tout ce qui était d'avant. Astarté, tout ça. Ouais, on purifie ça. De deuxième forme. Parce que, pourquoi faut-il purifier le temple de toutes ces idoles? Pourquoi? C'est tout simple. Comment puis-je venir adorer Dieu dans le temple, rempli d'idoles? rempli d'abominations. C'est pas possible. Hein? Je ne peux pas. Hein? Pourquoi faut-il rétablir le temple de l'Éternel? Parce que le temple de l'Éternel, c'est le lieu d'adoration, mais c'est aussi le lieu du service où on offre le sacrifice. Et c'est aussi le lieu de la présence de Dieu. Donc, comment puis-je dire que je vais adorer Dieu rempli d'idoles? C'est pas possible. Comment puis-je dire que je vais offrir le sacrifice alors que dans le temple de Dieu, il y a plein d'abominations? C'est pas possible. Donc, il commence à purifier le temple de l'Éternel, qui reconnaît qu'il ne peut pas servir le vrai Dieu dans un temple où règnent les objets qui ont servi à l'idolâtrie. Dieu ne se mélange pas avec le péché, mes amis. On ne peut pas non plus adorer l'Éternel au milieu du péché. Dieu ne commerce pas avec le péché. Dieu ne fait pas de commerce avec le péché. Yahvé est trois fois saint. Et aussi, on ne peut pas servir l'Éternel dans un lieu où règnent l'idolâtrie et le péché. Dieu ne doit pas et ne peut pas être mis au nombre des idoles. D'où la purification du temple. Et troisième réforme, à partir du verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Quelle a été la première réforme? Voilà. La première réforme, c'est il a réformé son cœur. Il a choisi de suivre l'Éternel. Il a choisi de suivre l'exemple de David, son père. Parce que son cœur a été touché lorsqu'il a lu le livre de la loi. Deuxième réforme, il a demandé de purifier le temple. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans un temple d'idoles. Et troisième réforme, mes amis, il demande de célébrer la Pâque. La Pâque. Mais pourquoi célébrer la Pâque, mes amis? Parce que la Pâque a une grande signification en Israël. La Pâque rappelle la délivrance d'Égypte. Le livre de l'Exode. Célébrer la Pâque, c'est commémorer que l'Éternel, dans sa puissance, a délivré le peuple d'Israël de la puissance de Pharaon. Seul Dieu pouvait délivrer son peuple de Pharaon. Mais aussi, c'est aussi rappeler que la Pâque, c'est cette nouvelle alliance que Dieu a traitée avec son peuple. Donc lorsque nous célébrons, à l'époque ils célébraient la Pâque, ils se rappelaient, c'est l'alliance de l'Éternel avec son peuple. Célébrer la Pâque, c'est revenir à l'alliance de l'Éternel. Reconnaître que ma seule délivrance du péché ne peut venir que de l'Éternel. Et chose extraordinaire, mes amis, c'est que dans tous les réveils spirituels en Israël, la Pâque a toujours été célébrée. Toujours. Que ce soit par Ézéchias, par Josias, par d'autres, dès l'instant où il y a une réforme spirituelle, il y a un retour à l'alliance de l'Éternel. Je ne peux pas dire que j'ai réformé mon cœur si je ne suis pas revenu à l'Éternel. Et la vraie réforme, mes amis, c'est dans le cœur. Ça commence dans le cœur et ça se propage autour de soi. On verra ça tout à l'heure, rapidement. Que voulons-nous, mes amis? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Que voulons-nous? Sommes-nous satisfaits de notre vie spirituelle? Est-ce que la vie que je mène, ça me satisfait? Est-ce que je désire aller plus loin avec l'Éternel? Vous savez, il n'y a que deux réponses. Soit je vais plus loin, ou je vais rester là où je suis. Mais si je choisis, mes amis, d'aller plus loin, il nous faut revenir à l'Écriture. Si je veux aller plus loin avec le Seigneur, il me faut revenir à la source, qui est l'Écriture. Je dois revenir à l'Écriture. Il nous faut redécouvrir l'Écriture comme pour la première fois, non pas avec des yeux charnels, mais avec les yeux du cœur, les yeux éclairés par l'Esprit de Dieu, les yeux du cœur régénérés et purifiés par le Seigneur. Parce que seule la parole de Dieu peut me révéler ce qu'est le péché. Nous vivons dans une époque, mes amis, où la notion du péché n'a plus le même sens qu'avant. Nous faisons la confusion entre le bien et le mal. On ne sait plus ce qui est bien de ce qui est mal. Chacun a sa propre opinion du bien, sa propre opinion du mal. Surtout, c'est la France. Il faut tolérer. Dieu n'est plus la référence. La Bible n'est plus le guide moral et spirituel de l'homme. L'homme a mis Dieu en dehors de sa vie et de la société. Et nous connaissons tous les scandales d'aujourd'hui qui, me semble-t-il, sont dus au fait que Dieu a été mis de côté. La Bible aussi révèle qui est l'homme. L'homme est pécheur. L'homme est rebelle à Dieu. L'homme a besoin de se repentir. Et seule la Bible peut lui dire ce message. L'homme doit se repentir pour obtenir le pardon de ses péchés. Mais aussi la Bible, l'Écriture, va révéler qui est le chrétien. Que c'est un enfant de Dieu, sauvé par grâce, et qu'il est appelé à vivre une vie dans la sanctification. Et je dis ça pour moi le premier. Nous avons tous besoin de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous appelle à marcher, lui, dans la sanctification. Que nous appartenions au grand roi qui vient bientôt nous chercher. Ce bientôt appartient à Dieu. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais ce bientôt appartient à Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être prêts. Et la Bible, le message de l'Écriture, pour me rappeler d'être toujours prêt à venir à la rencontre de mon Dieu. Mais aussi la Bible, elle a aussi pour me dire qui est le Seigneur. Que notre Dieu est un Dieu trois fois saint. Que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Que Dieu aime le pécheur, c'est vrai. Mais il est le péché. Mais il aime le pécheur, même. Les rois, dans l'histoire d'Israël, chaque roi qui accédait à la royauté devait avoir une copie de la loi et la lire jour et nuit. Vous savez ça? Chaque roi devait avoir une copie de la loi qui devait lire, agir fermement. Nous, en tant que chrétiens, sommes aussi appelés chaque jour à méditer la parole de Dieu pour agir conformément à ce que Dieu nous demande. Si j'oublie la loi, si je médite la parole de Dieu, comment puis-je mettre en pratique ce que Dieu attend de moi? Comment puis-je réformer mon cœur si la loi ne m'éclaire pas? Si le livre de la loi, la parole de Dieu, disparaît dans ma vie, je n'ai plus accès à la parole de Dieu. Je ne peux plus être en relation avec Dieu et savoir ce qu'il veut me dire. Et tout doucement, je tombe dans les ténèbres spirituelles et dans l'apostasie. Mon propos aujourd'hui n'est pas de faire un grand message sur le réveil. Je n'ai pas les capacités. Mais je vais simplement dire, c'est que le réveil commence toujours par soi-même. D'abord, Dieu purifie mon cœur et enlève tout ce qu'il y a de mauvais. Les réformes spirituelles ont commencé par un homme ou par une femme. Et cela s'est propagé autour d'eux. Si je m'engage à servir Dieu fidèlement, si je prends la résolution, comme Josias, de suivre l'Éternel, ceux qui craignent le Seigneur vont suivre mon exemple. Ceux qui aiment le Seigneur vont s'engager fidèlement à servir Dieu.
Ceux qui tremblent devant la parole de Dieu et qui haïssent le péché vont se réveiller aussi et se lever pour servir Dieu. Parce que j'ai décidé dans mon cœur de m'engager pour le Seigneur. La veille commence toujours par soi. Si j'attends que mon voisin se réveille pour que moi je me réveille, le réveil commence toujours par soi, mes amis. Et ça se propage. Par la grâce de Dieu. Les réveils spirituels ont toujours un impact positif dans le monde où je vis. Mon entourage immédiat, mes parents, ma famille, mes amis, mes collègues, mon église, ma ville, mon pays. Et c'est vrai que dans toute l'histoire de l'église, les réveils ont toujours conduit à l'expansion de l'évangile. Et c'est là où on voit la puissance de la parole de Dieu. Dieu choisit un petit garçon. Et Dieu fait de grandes choses. Amen. Pour conclure, pourquoi la vie de Josias est un exemple pour nous aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à chercher Dieu. Si j'attends mon doctorat pour commencer à chercher Dieu, je peux passer à côté de l'essentiel. Il n'y a pas d'âge pour commencer à chercher Dieu. Si notre cœur est sincère devant Dieu, et si nous le cherchons humblement, Dieu peut nous utiliser pour faire de grandes choses dans notre génération. Je sais pas comment ça va se faire pour vous. Jérène. Alors, mes amis, prions pour Jérène, qu'il soit un grand réformateur. Amen. Mais, mes amis, mais c'est vrai, prions pour nos enfants, que Dieu les utilise, pour qu'ils soient de grands réformateurs. Et imaginez ce que Dieu est capable de faire avec un petit garçon qui décide de suivre le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de situation trop dépravée pour Dieu. Même lorsque nous croyons que tout est fini, Dieu peut encore intervenir. C'est vrai. 55 ans où il n'y avait rien, totalement mort. Mais Dieu a utilisé le petit garçon pour amener de grandes choses. Seule la parole de Dieu peut nous apporter les vraies réformes dans notre vie et dans le monde où nous vivons. La parole de Dieu. Chance. Mais nous devons suivre l'intelligence suprême, la parole de Dieu. Amen. Et dernière parole. La parole de Dieu est toujours là pour nous éclairer et agir en profondeur dans notre vie pour la gloire de Dieu. Amen. Alors que Dieu nous aide dans sa grâce, soit la gloire. Amen.